Et on parle ce matin, Claude, d'un prophète.
Qui a fait du chemin avant de prophétiser, devenu milliardaire dans la spéculation, ayant inventé les hedge funds, les fonds spéculatifs. Mais du haut de ses milliards, George Soros est devenu combattant de la démocratie, détesté par et détestant les illibéraux, les dictatures. Et dans les échos ce matin, le revoici, Soros, nonagénaire, qui admoneste une firme rivale, BlackRock, premier géant d'actifs boursiers au monde, 9000 milliards de dollars, mais que Soros accuse de porter atteinte à la démocratie en investissant en Chine. Car BlackRock a lancé en août des produits financiers à destination des consommateurs chinois et encourage ses clients occidentaux à doubler, tripler leurs investissements dans l'empire qui lui ouvre les bras. Erreur tragique, a écrit Soros dans une tribune publiée par le Wall Street Journal que citent les échos. Les clients de BlackRock vont y perdre des sous, mais surtout investir en Chine va porter atteinte à la sécurité nationale des États-Unis et des autres démocraties. Sera-t-il entendu, Soros ? BlackRock a fait savoir hier, c'est dans le Financial Times, que ses produits chinois avaient déjà levé 1 milliard de dollars. Et cette histoire nous vient quand les Échos encore et le Figaro racontent une crise financière qui menace la Chine, où le géant de l'immobilier Evergrande croule sous les dettes, pourrait faire défaut et son effondrement entraînerait les marchés chinois. Est-ce une bonne affaire alors ? Elle nous vient surtout, l'histoire de Soros, quand le site du Point Magistral nous décrit ce que le régime chinois fait aux enfants qui, dans leurs écoles, sont éduqués à la pensée du grand leader Xi Jinping, une pensée nationaliste, imprégnée de morale, qui exalte la volonté, tutoie aussi bien le communisme que le fascisme d'antan, qui place le leader omniscient au cœur d'une patrie assiégée et subordonne tout à un impératif, la sécurité nationale enseignée dans les manuels de primaire. Est-ce une raison pour ne plus commercer ? L'économie, la croissance, la civilisation même ne sont pas des histoires morales. Et dans Libération, l'historien Paulin Ismar, qui dirige un livre collectif, Les Mondes de l'esclavage, raconte comment, depuis l'Antiquité, la servitude a accompagné la construction de nos modernités. L'esclavage dessina des routes commerciales, une mondialisation, et même les plantations furent un lieu d'expérimentation de techniques de management. Sur le site de l'Obs, une autre historienne, Cécile Vidal, décrit l'université de l'esclavage qui s'est poursuivie sous forme de travail forcé après les abolitions et qui aura suscité historiquement peu de réprobation. On se disputait jadis sur le fait de savoir qui pouvait être réduit en esclavage. Le principe fut tardivement contesté.
On parle aussi de pénurie ce matin.
Qui domine et inspire des unes à la dépêche, le béret républicain, le maine libre, pénurie qui font défaut à la reprise. Oui, nous manquons de composants électroniques dans l'automobile et nous manquons même de bois dans le BTP. Alors nos journaux décrivent les économies prédatrices de l'Amérique et de la Chine. Êtes-vous étonné qu'ils se servent en premier ? Mais la Chine puissante, elle aussi, ne parvient plus à produire suffisamment pour exporter vers nous. Et nous disent les échos, nos magasins de jouets attendent en vain des joujoux chinois. Dans le Figaro, nous attend un prophète familier qui lui aussi dit un manque, mais ce que regrette et déplore Alain Finkielkraut ne se quantifie pas, c'est la littérature, le spirituel qui manque à Finkielkraut. Oh, elle n'a pas disparu, il reste de beaux livres, mais ce qu'il porte, l'art d'écrire, ne participe plus à notre vision du monde. La littérature a cessé d'éduquer les sensibilités et de façonner les âmes, dit Finkielkraut. Elle était la littérature, l'individu, la complexité, la nuance, l'exploration inlassable de la pluralité humaine, l'adversaire de l'idéologie, mais désormais l'idéologie triomphe. Et Finkielkraut, dans son nouveau livre « L'après-littérature » et dans « Le Figaro conquis », porte la posture du vaincu, splendide, citant Proust et citant Peggy qui défendait Homère. Et puis, sans surprise ni nuance cette fois, Finkielkraut poursuit sa guerre contre ses ennemis idéologiques, les progressistes, les néo-féministes, les nouveaux antiracistes qui seraient dans leur passion du bien les fossoyeurs des livres. Dans son combat, Finkielkraut, curieusement, est rejoint par Robert Badinter, qui parle dans Télérama de ses combats et de ses archives, et qui, au détour de son texte, dit son amour de Victor Hugo, et ajoute « Aujourd'hui, Hugo serait sans doute voué aux gémonies par les ultra-féministes pour avoir été toute sa vie un amateur passionné de jolies femmes. » Et cette sortie nous dit quel tourment déchire ce qu'on appelait jadis le progressisme. Télérama choisit cette phrase comme titre de l'entretien. Il y a deux jours, le site de Radio-Canada, son accès est gratuit, révélait que dans des écoles de l'Ontario, on avait détruit, brûlé parfois, enterré quelques 5000 livres qui avaient été jugés offensants pour les Indiens du pays, les Premières Nations. Parmi les livres brûlés, il y a Tintin en Amérique. Je ne vois pas dans cette histoire de quoi guérir Finkielkraut ou Badinter de leur douleur.
Mais on parle aussi, Claude, d'une librairie.
Qui qui réconcilie les mots, la nature, l'obstination humaine. Elle est sur le site du Monde, superbe. L'histoire d'un kiosque à journaux que fait vivre à Manaus, au cœur de l'Amazonie, l'épatant Joachim Mello, surnommé le libraire de la forêt, qui a pris l'envoûtement des mots en lisant l'écrivain du peuple de Bahia, Jorge Amado, et qui dans son kiosque a créé la plus grande bibliothèque du monde. Consacré à l'Amazonie menacée, il protège la nature et chez lui, dans l'air conditionné, protège des milliers de précieux livres de la chaleur et de l'humidité. Dans West France, nous attend un homme d'affaires, un entrepreneur à succès qui savait compter mais ne savait pas lire. Tant Claude Jean, son enfance était pauvre, anémie au point de quitter l'école sans rien avoir appris. Il est sorti de l'illettrisme à 50 ans en déchiffrant un livre sur Napoléon. Dans le Canard enchaîné, l'Alsace et les DNA, nous apprenons qu'un jeune homme d'aujourd'hui, un apprenti de 26 ans, s'était fourni sur eBay, formé sur Internet pour fabriquer des engins explosifs radioactifs. Il a été arrêté en août. Il s'intéressait au Ku Klux Klan, croix gammée. Nous étions partagés, dit ses copains, entre le rire et l'inquiétude. Restons inquiets.
Merci Claude pour cette revue de presse. France Inter.